Herbert George Wells, L'héritage perdu. Mon oncle, dit l'homme à l'œil de verre, était ce que l'on peut appeler un millionnaire. Il possédait quelque chose comme 120 000 livres de revenus, pas un penny de moins, et il m'a laissé toute sa fortune. Je considérais sa manche luisante et relevais les yeux vers le collet limé de son veston. « Oui, il m'a laissé toute sa fortune !» répéta l'homme à l'œil de verre. Et je remarquai que son regard vif se fixait sur moi avec une expression outragée. « Il ne m'est jamais tombé pareil aubaine !» lui répondis-je, en m'efforçant de manifester de l'envie et de gagner ses bonnes grâces. « Les héritages eux-mêmes ne sont pas toujours des bienfaits !» me confia-t-il en soupirant. Et d'un air plein de résignation et de philosophie, il plongea son nez enluminé et sa maigre moustache dans le pichet de bière qui était devant lui. « Oui, peut-être bien, concédai-je. Vous comprenez, il était écrivain, il a écrit des quantités de livres. « Vraiment ? « Oui, et c'est justement ce qui a été cause de tout le mal. » Sa seule prunelle valide se fixa avec intensité sur ma physionomie, comme s'il cherchait à voir si j'avais saisi ou non le sens de la réflexion qu'il venait d'émettre. Puis il se détourna légèrement et tira de sa poche un cure-dent. « Écoutez-moi, reprit-il au bout d'un moment, en faisant claquer ses lèvres. Voilà comment les choses se sont passées. Cet oncle-là était mon oncle maternel, et il avait, comment vous dirais-je, un penchant pour écrire de la littérature édifiante. Un penchant, non, c'est pas le mot juste, il serait plus exact de dire une véritable manie. Il avait été bibliothécaire dans une école d'application, et aussitôt que la fortune lui était venue, il s'était empressé de satisfaire son ambition. Moi, j'ai toujours trouvé cela positivement extraordinaire et incompréhensible. Concevez-vous cela? Un homme de 37 ans, auquel échoit tout d'un coup un véritable monceau d'or, et qui ne déroge à aucune de ses habitudes, et qui ne s'émeut même pas pendant 24 heures. On s'attendrait plutôt, n'est-ce pas, à le voir saisir la balle au bon pour remonter au garde-robe, courir aussitôt chercher s'acheter, par exemple, 2 douzaines de pantalons chez un tailleur du West End. Eh bien non, pas du tout. Vous me croirez, si vous voulez, mais quand il est mort, il ne possédait même pas une montre en or. C'est vraiment péché que l'argent s'en aille à des gens comme cela. La seule chose qu'il fit fut de louer une maison, de se commander près de 5 tonnes de livres, d'encre et de papier, et de se mettre à pondre à tour de bras de la littérature édifiante. Moi, ça me surpasse. Mais c'est pourtant la vérité. Chose curieuse, cet argent lui était venu à lui aussi, et de la façon la plus inattendue d'un de ses oncles maternels. Ma mère se trouvait être la seule parente qui lui restait au monde, à part des cousins au second degré. Et moi, j'étais le fils unique de ma mère, vous me suivez bien. Ses cousins au second degré, le mari et la femme, avaient également un fils unique, mais ils eurent tort de le conduire trop tôt chez le bonhomme, car ce fils unique était un véritable enfant gâté, qui, pas plus tôt en présence de mon oncle, se mit à pousser des hurlements effroyables. « Mais j'en veux pas, j'en veux pas !» criait le gosse en trépignant. Et ce fut fin, fini. Jamais plus ne consentit à le revoir. Après cela, j'ai pas besoin de vous dire que, pour moi, cela marcha absolument comme sur des roulettes. Et ma mère, qui était une femme avisée et pleine de bon sens, avait depuis longtemps combiné la chose avant que mon oncle y eût seulement pensé encore. C'était un drôle de petit bonhomme que mon oncle. Si je m'en rapporte à mes souvenirs, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce gosse en ait eu si peur. Des cheveux pareils à ceux des poupées japonaises qu'on voit dans les magasins, des cheveux noirs, plats et raides, plantés tout autour du crâne et laissant une tonsure ronde au milieu, et en dessous, une figure blafarde et 2 yeux gris foncés assez grands et qui remet perpétuellement derrière ses lunettes. Il avait sans doute l'habitude d'attacher une grande importance à son habillement Il portait invariablement un pardessus à longue basque et un chapeau de feutre à large bord, de dimension extraordinaire. Cela formait, je vous prie de croire, un ensemble assez singulier. Dans la maison, on le voyait presque toujours affublé d'une robe de chambre en flanelle rouge, fort sale, et coiffé d'une calotte noire. Cette calotte noire le faisait ressembler aux portraits de toutes sortes de célébrités.
Une autre particularité de mon oncle consistait à déménager sans cesse, en trimballant toujours derrière lui son fauteuil, qui avait appartenu à Savage Landor, ses deux bureaux, dont l'un avait servi à Carlyle et l'autre à Shelley, s'il fallait en croire l'antiquaire qui le lui avait vendu, et enfin la bibliothèque encyclopédique transportable la plus complète d'Angleterre. Muni de tout cet appareil, il venait se loger, tantôt à Darwin, près de l'ancienne demeure de Darwin, tantôt à Leigh-Gate, auprès de celle de Meredith. De là, il repartait pour Alsemer, revenait passer quelque temps à Chelsea, puis remontait jusqu'à Hampstead. Il se rendait bien compte que sa prose n'avait rien d'étonnant, mais ce dont il ne se rendait pas compte, c'est que cela tenait à la médiocrité de son intelligence. Et il attribuait toujours cela, soit à l'atmosphère, soit à la température de l'eau, soit à l'altitude ou à toute autre contingence de même genre. « Tout dépend tellement de l'ambiance dans laquelle on se trouve, » déclarait-il en vous observant de très près, « comme si vous soupçonnait presque de rire sous cap. L'ambiance joue un si grand rôle sur une âme sensible comme la mienne. Son nom, oh, vous serait inconnu si je vous le citais. Personne n'a jamais rien lu de ce qu'il écrivait. Personne. Qui donc s'y serait arrêté? Il avait la prétention d'être un grand moraliste, cet auteur, et ne savait seulement pas quelle morale il voulait enseigner. Alors il se bordait de vagues redondances sur la vérité, sur la droiture et sur d'autres sujets du même ordre. Il écrivit là-dessus des livres et des livres qu'il publia tous à ses propres frais. La vérité, voyez-vous, c'est qu'il n'avait pas ses idées bien nettes, le pauvre. Et si vous l'aviez entendu vilipender contre les critiques, oh, pas parce qu'il les ratait, au contraire, ça ne lui aurait plu, mais parce qu'il ne faisait même pas attention à lui. « Que cherchent les nations ?» s'écriait-il, en levant sa vieille patte brune. « Eh, parbleu, un pilote, un guide. Elles sont éparpillées à travers les collines comme des brebis sans berger. Elles vivent dans la perpétuelle terreur de la guerre et des bruits de guerre, et dans la terreur de l'esprit de discorde qui les parcourt sans cesse du haut en bas. L'anarchie, la vivisection, la vaccination, l'ivrognerie, la misère, le besoin des erreurs socialistes, le capitalisme égoïste. Vois-tu, d'ici toutes les nuées qui sont prêtes à fondre sur nous ? Ted, oui, j'avais envie de vous le dire, c'était moi. Vois-tu, d'ici toutes ces ruées menaçantes. Et derrière tout ça, il y a encore autre chose de plus formidable, il y a le Mongol qui attend son heure. Oh, les Mongols, le spectre du socialisme. En voilà des questions sur lesquelles il était intarissable. Et brusquement, le regard enflammé, la calotte de travers et pointant son index vers moi, il susurrait d'une voix contenue. Et moi, m'entends-tu, Ted, moi? À quoi tendent mes aspirations? À orienter les nations. Oui, voilà mon but, orienter les nations. Et je puis le dire en toute modestie, Ted, j'ai tout ce qu'il faut pour cela. Et j'accomplirai tout cela un jour, oui. Je les orienterai vers l'idéal, vers le pur domaine de la droiture, tout arrosé de miel et de lait. Cela vous donne une idée de la marotte qu'il possédait. Les nations, la droiture, il en avait plein la bouche, et pendant des heures entières, il vous entretenait de ses divagations entremêlées de bêlements insipides et de préceptes bibliques. Et moi, depuis ma 14e année jusqu'à la 23e, à un âge où l'on aurait plutôt dû chercher à développer mon intelligence, ma mère, au moins une ou deux fois par semaine, me bichonnait et me peignait avec soin, du moins pendant la première partie de cette période, en me faisant une belle raie au milieu et me conduisait chez ce bienheureux oncle pour écouter toutes les sornettes que le vieux Toquet débitait en guise de commentaire aux nouvelles du jour et en s'évertuant de son mieux à copier Carlyle. Et il me fallait suivre à la lettre les recommandations que l'on m'avait faites avant d'entrer, c'est-à-dire prendre un air intelligent et attentif, en somme lui donner l'impression que je m'intéressais prodigieusement à tout ce qu'il disait. Et plus tard, ce fut de moi-même que, par souci de l'héritage en perspective, je continuais à m'astreindre à ses visites. J'étais d'ailleurs le seul à aller le voir. J'ai la conviction qu'ils devaient écrire à tous ceux qu'ils avaient acquis une célébrité plus ou moins grande et qui leur envoyaient tel ou tel exemplaire de ses livres en les invitant à venir s'entretenir avec lui des sujets qui lui étaient chers. Mais la plupart ne prenaient même pas la peine de lui répondre et aucun ne sonna jamais à sa porte. Malgré cela, quand la soubrette venait nous ouvrir, oh, qu'elle était rusée, cette soubrette! Il y avait toujours, sur la banquette de l'antichambre, des monceaux de lettres prêtes à partir et adressées au prince Bismarck, au président des États-Unis, et à une foule d'autres personnages en vue. Et l'on montait l'escalier, et l'on suivait le corridor tapissé de toiles d'araignée. La femme de chambre buvait du matin au soir, et les corridors n'étaient jamais époussetés. Et on le trouvait enfin dans son cabinet, au milieu de livres grands ouverts, entassés sur sa table, de paperasses déchirées jonchant le plancher, de télégrammes et de journaux jetés dans tous les coins, de tasses à café vides et de restants de rôti oubliés sur le coin de tous les meubles. Vous aperceviez son dos rond en forme de bosse et ses cheveux raides qui piquaient droit entre cette fameuse robe de chambre et le bord de sa calotte. « Un moment » s'écriait-il, « un moment » répétait-il par-dessus son épaule. « Le mot juste, tu comprends, Ted ? Le mot juste, des pensées droites, exprimées avec droiture. Ah ah, l'enchaînement des idées. Et maintenant, Ted, reprenait-il en pivotant sur son fauteuil, comment va la jeune Angleterre ? C'était le nom stupide qu'il m'avait donné. Voilà donc quel était mon oncle et quelle était sa façon de parler, tout au moins quand il s'adressait à moi, car lorsqu'il avait affaire à des étrangers, il se montrait plus timide. Mais non content de me haranguer, comme je viens de vous le dire, il me faisait encore présent de ses livres, de gros volumes, d'au moins 600 pages aux titres alléchants, tels que « La communauté hurlante »,« L'hippopotame de la bigoterie »,« Creusets et passoires », et tant d'autres, tous aussi pompeux et aussi dépourvus d'originalité. La dernière fois que je le vis, il me donna encore un de ses ouvrages. Il sentait déjà malade et paraissait très abattu. Ses mains tremblaient. Moi, l'aperçus tout de suite, car je cherchais toujours à déceler les symptômes de défaillance qui se révalaient en lui. « Mon dernier livre, Ted, me dit-il. Mon dernier livre, mon garçon. Mon suprême appel aux nations sourdes et endurcies. Du diable, si une larme ne roulait pas sur sa vieille joue flétrie. C'était un véritable chagrin pour lui de se dire que c'était fini et qu'il avait pondu que 53 tomes d'idiotes élucubrations. « Il m'est parfois venu à l'idée, Ted, » commença-t-il, puis il s'arrêta à court. « Peut peut-être juger avec trop de précipitation et de colère cette génération obstinée. Peut-être aurais-je dû me montrer plus indulgent, plus réfléchi. Il m'est parfois venu à l'idée, comme il prenant ainsi, j'aurais bien réussi à toucher son cœur. Mais enfin, j'ai fait de mon mieux, Ted. » Et alors, cédant à un brusque besoin d'épanchement, il m'avoua pour la première fois et la dernière fois de sa vie qu'il avait conscience de n'avoir été qu'un incapable. Il fallait vraiment qu'il se sentît bien malade. Après avoir réfléchi une ou deux minutes, il se mit à parler d'une voix calme et douce, aussi posément et aussi raisonnablement que je le fais moi-même en ce moment. « Je me suis montré un sot, Ted, reprit-il. Je n'ai fait que débiter des âneries toute ma vie. Seul, celui qui a le pouvoir de lire au fond de nous-mêmes est capable de déterminer s'il y a eu en cela d'autres manifestations que celle de la vanité. Pour moi, seul, je n'en sais rien. Mais il le sait, lui. Il le sait. En tout cas, si j'ai pu paraître vaniteux et stupide au fond de mon cœur, tout au fond de mon cœur. Oui, oui, voilà comment il parlait, répétant coup sur coup les mêmes mots. Puis brusquement, il se tut tout à fait et me tendit le livre en tremblant. Et alors je vis briller à nouveau dans ses yeux leur ancien éclat d'autrefois. Je me rappelle nettement toute la scène, parce qu'en rentrant chez nous, je la minais devant ma mère en lui répétant tous les mots qu'il avait prononcés, afin de la distraire un peu. « Prends ce livre et lis-le, m'avait-il dit. C'est mon dernier mot, mon tout dernier mot. Je t'ai laissé toute ma fortune, Ted. Puisses-tu en faire un meilleur usage que moi ?» Et aussitôt après, il avait été pris d'une canne de toux. Aujourd'hui encore, je revois toute cette scène comme si elle s'était déroulée hier. Je me revois, rentrant chez moi, en dansant de joie. Je le revois, lui, quand je retournais le voir le lendemain, couché dans son lit. La femme de charge était ivre-morte au rez-de-chaussée, et avant d'entrer dans la chambre du vieillard, je bavardais gaiement, durant quelques instants, avec la soubrette dans le couloir, où il déclinait très rapidement. Mais le démon de l'orgueil le possédait encore. « Eh bien, demanda-t-il d'une voix éteinte, tu as lu ?»« J'y ai passé la nuit entière, lui répondis-je, pour lui faire plaisir, en me penchant à son oreille. » Et j'ajoutais, citant une bribe de poésie qui m'était revenue en mémoire, « C'est le dernier, mais aussi le plus vaillant et le meilleur. » Il sourit un peu et essaya de me serrer la main, mais sans plus de force qu'une femme, et son étreinte se dénoua presque aussitôt. Sa main était retombée inerte sur les couvertures. « Oui, le plus vaillant, le plus brave, » répétais-je, voyant le contentement que cela lui causait. Mais il ne me répondit rien. J'entendis la soubrette pouffer derrière la porte, car nous était arrivé parfois de nous moquer ensemble du bonhomme, en riant innocemment ensemble de ses manières. Je le regardais, et je vis qu'il avait les yeux clos et le nez gonflé de chaque côté, comme s'il avait reçu un coup de poing. Mais il souriait toujours. C'est tout de même drôle quand on y pense, vous savez. Il était mort, oui, mort dans la peau d'un raté, on peut le dire. Il avait sur sa figure le sourire heureux de ceux qui ont réussi. Voilà donc de quelle façon mon vieil oncle avait rendu le dernier soupir. J'ai pas besoin de vous dire si ma mère et moi nous fîmes une obligation de lui rendre les derniers devoirs. Mais aussitôt cette tâche accomplie, on se mit naturellement en quête du testament. Au début, nous procédâmes avec tout le respect et toute la bienséance qui était de règle en pareille circonstance. Mais la journée n'était pas encore terminée, que nous étions à bout de patience, et que nous avions éventré les fauteuils, défoncé les meubles et sondé les murs, stimulé par la peur de voir surgir d'un instant à l'autre les cousins qui chercheraient à nous disputer notre butin. D'ailleurs, là, nous questionnâmes la femme de charge. Elle nous répondit que mon oncle avait effectivement demandé d'imposer sa signature au bas d'un testament. « Un testament très court, disait-elle, rédigé sur une demi-feuille de papier, qu'il avait écrit il y avait un mois à peine. » Et le second témoin était le jardinier, et il nous confirma en tout point ce qu'elle nous avait déclaré. Mais du diable, s'il était possible de mettre la main sur ce document, ou sur aucun autre. Oh, je vous réponds que s'il put entendre les invectives de ma mère, il eut en tressaillir au fond de son tombeau. Finalement, survint un notaire de Lelguette, qui de ses cartons n'extirpa un établi des années et des années auparavant, à la suite d'une discussion que mon oncle avait eue avec ma mère. Eh bien, c'est formidable, mais c'est le seul testament que l'on parvint jamais à découvrir. Et dans ce testament, il stipulait que sa fortune entière irait au marmot de ses cousins, à celui qui criait « J'en veux pas, j'en veux pas !» et qui, lui, depuis qu'il était au monde, n'avait jamais eu endurer ses harangues, même pendant un seul après-midi. L'homme à l'œil de verre se tut. « Mais, hasardais-je, je croyais que vous m'aviez dit... »« Minute !» interrompit l'homme à l'œil de verre. « Vous n'êtes pas plus pressé que moi, je pense. Vous qui n'avez aucun intérêt dans l'affaire. Et moi, vous m'entendez, moi. Il a bien fallu que j'attende jusqu'à ce matin pour connaître la fin de l'histoire. Alors, patientez un peu, que diable !» Le testament fut exécuté et le petit cousin hérita. Il n'eut pas plutôt atteint sa majorité qu'il se mit à faire sauter les écus. Et comment il les faisait sauter, l'animal ? Il jouait, il buvait, il faisait les 400 coups. À chaque minute, il causait un nouveau scandale, et il n'était question que de lui dans les journaux. Moi, quand je repense à tout ce qu'il a fait, j'en perds la boule. À 30 ans, il avait tout nettoyé, et la dernière fois que j'entendis parler de lui, misère de misère, c'était il y a 3 ans. Moi, naturellement, je n'avais pas tardé à manger de la vache enragée, car en fait de métier, vous comprenez, je connaissais que l'art de capter un héritage. Tous les projets que j'avais en tête, autant dire, j'attendais pour les mettre à exécution, que mon oncle ait cassé sa pipe. Oh, depuis, j'ai connu des hauts et des bas, et en ce moment, je suis dans une purée noire, si noire même que je vous l'avoue franchement, j'aurais grand besoin d'un secours. Si bien que ce matin, je furetais dans tous les coins de ma chambre pour tâcher de dénicher un objet quelconque que je pourrais aller engager afin de me procurer de quoi me mettre quelque chose sous la dent. Et à force de revoir toujours devant moi tous ces volumes dont mon oncle m'avait fait cadeau, et que personne ne veut acheter, pas même pour envelopper du beurre, eh bien, ma foi, cela finissait par m'exaspérer. Je lui avais promis de ne pas m'en séparer, et je vous réponds que j'ai aucune peine à tenir ma promesse. De rage, je donnais des coups de pied dedans et les envoyais voler à l'autre bout de la pièce. L'un d'eux sauta jusqu'au plafond. Et d'entre ses feuilles ouvertes, je vis tout à coup s'échapper. Vous devinez quoi ? Le testament. Il me l'avait remis à moi-même en m'offrant son dernier livre. Il croisa ses bras sur la table et considéra tristement avec son œil unique son pichet vide. Il hochait la tête. Je l'entendis qui disait d'une voix sourde : Je n'avais seulement pas ouvert le livre. « Seulement pas couper une page !» Puis, avec un rire amer, il releva la tête et me regarda comme pour quémander un mot de compassion. « Imaginez-vous cela, avoir été le coucher là-dedans, le cacher là-dedans, mais c'était bien le dernier endroit, on aurait été le chercher, hein ?» Et distraitement, il s'était mis à repêcher une mouche morte au fond de son pichet. « Cela montre bien la vanité des écrivains, » reprit-il au bout d'un moment. En relevant le nez une seconde fois pour me regarder. Il n'avait pas eu l'intention de me jouer un tour. Au contraire, il avait voulu se montrer loyal envers moi. Il avait cru de bonne foi que, rentré chez moi, j'allais aussitôt dévorer d'un bout à l'autre son précieux livre. Mais cela montre encore autre chose, vous ne trouvez pas ? Son œil s'abaissa une fois de plus vers son pichet vide. Cela montre aussi... Combien nous autres, pauvres hommes, nous avons du mal à nous comprendre. En ce qui le concernait, il y avait en tout cas une chose qui ne laissait place à aucune méprise, car l'expression de son œil exprimait, d'éloquente façon, la soif qui le dévorait. Il accepta, avec une surprise mal simulée, l'offre que je lui fis de faire remplir son pichet, se bornant à dire, selon sa subtile réponse habituelle, que... « Mon Dieu, il n'y voyait pas d'inconvénient. »